Il intervenait le jour du sabbat. Il intervenait pour guérir, il intervenait pour libérer, il intervenait pour délivrer, mais notre Seigneur faisait passer en priorité et manifestait à cet égard la compassion et la miséricorde dont l'être humain, vous, moi, avons tellement besoin. Certains, encroutés dans la religion, dans ce qui est religieux, eh bien, ils prônent la piété religieuse, mais dénuée de miséricorde et de compassion. Tandis que Jésus qui, lui, comme fils de Dieu et comme Dieu lui-même, dans son ministère était en action, eh bien, lorsqu'il agissait, comme il a exposé cela dans un certain contexte, lorsqu'on lui faisait remarquer que ses disciples faisaient ce qui était interdit le jour du sabbat, il leur a dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, dans une certaine circonstance, comment il prit des épis de maïs et il en mangea lui et donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Et puis il va conclure ce récit pour leur montrer que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Ça veut dire que Jésus met ce qui est de l'action qui découle de l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour l'être humain, pour celui qui souffre, qui pleure, qui a l'esprit dans l'abattement, celui qui a un besoin particulier que Dieu connaît, celui qui s'attend à Dieu comme vous ce matin et comme moi. Le Seigneur met votre priorité, ma priorité, avant ce qui est religieux. Amen. Et plaise à Dieu ce matin qu'au travers de ce moment, au travers de sa parole, il puisse nous donner ce qui est convenable. Alors moi, je me suis permis, comme cela est nécessaire et utile, de demander à Jésus qu'est-ce qu'il veut que nous partagions ce matin. Et je vous assure que j'aurais aimé qu'il me donne une autre direction, mais comme la sœur Annie, dans sa prière tout à l'heure, a remercié le Seigneur pour l'offrande, et dans sa prière, je l'ai entendu mentionner, Seigneur, cette assemblée, c'est toi qui la dirige. Seigneur, c'est ton œuvre. Elle a dit, je crois, deux ou trois fois dans sa prière. Ça n'a pas échappé à l'oreille du Saint-Esprit en moi. Et je ne peux que bénir Dieu pour cela, mes bien-aimés. Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il bâtit son Église, je bâtirai mon Église, et aussitôt il mentionne, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Or, l'Église que Jésus bâtit est composée de rachetés. Est-ce que nous sommes ce matin les rachetés de Jésus? Nous le sommes. Mais elle est aussi composée d'hommes et de femmes qui ont expérimenté la grâce de Dieu lorsque Dieu a permis qu'ils aient l'occasion d'écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Écoutez la bonne nouvelle de l'Évangile qui a produit la révélation de l'amour et de la grâce de Dieu manifestée à notre égard, et qui, malgré le fait que nous ayons reconnu ce que nous étions devant Dieu des pécheurs, avec toutes les conséquences qui en découlaient, c'est-à-dire en droit d'attendre le jugement de Dieu et sa condamnation, et après le jugement et la condamnation, destination, le séjour des morts, dans un premier temps, où, eh bien, malheureusement, nous entrions dans des amers regrets, comme le riche dont il est fait mention dans l'évangile de Luc. Et puis, dans cet endroit-là, nous attendrions la résurrection des impies, le jugement de Dieu, et puis la condamnation pour pouvoir être amené dans le lieu qu'on appelle l'étang ardent de feu, lieu où le feu ne s'éteint point, lieu où le ver ne meurt point, lieu où les souffrances sont tellement terribles qu'ils sont difficilement imaginables, mais lieu où malheureusement il y a de ceux que nous avons connus, excusez-moi de vous le dire, il y a aussi de nos parents qui nous ont précédés, et qui n'ont pas compris l'importance de faire ce que Dieu demande, c'est-à-dire se repentir de ses péchés. Vous savez, le maître Jésus, lorsqu'il parle, ce qu'il déclare peut sembler quelquefois étonnant, mais ce n'est pas du tout étonnant. Par exemple, Jésus va faire mention d'une situation dans l'évangile de Luc. La Bible nous rapporte qu'en ce temps-là, on a fait remarquer à Jésus un assassinat de M. Pilate qui a mêlé le sang d'innocents avec le sang des sacrifices qu'ils étaient venus offrir à Dieu. Ils sont venus rendre le culte à Dieu, et ce jour-là, les voici qui sont assassinés par Pilate. Alors, vous savez ce que Jésus dit? Croyez-vous que ces Galiléens ont été de plus grands pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils sont morts ainsi? Jésus leur dit, non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez également. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il met en évidence l'importance pour tout être humain vivant ici-bas de se repentir devant Dieu de ses péchés. Ou ces 18 personnes sous lesquelles la tour de Siloé s'est effondrée et qui les a tuées. Est-ce qu'ils ont été plus grands pécheurs que les autres? Non, le même processus. Si vous ne vous repentez, vous périrez également. Et à nous qui sommes là aujourd'hui, vous, moi, comme enfants de Dieu, Dieu nous a fait la grâce de nous repentir de nos péchés. Et la repentance avec Dieu nous a conduit obligatoirement à comprendre l'importance, après la repentance, eh bien, de changer de direction. Ça, c'est la conversion. Un changement total de conversion, de direction, qui n'est pas autre chose que le résultat produit dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit lorsque nous avons eu l'occasion d'écouter l'Évangile. Vous savez, Isaïe le prophète déclare dans l'oracle divin qu'il reçoit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. » Et cela n'est pas autre chose que ce qui précède cette déclaration lorsqu'il dit cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Oui, peuple d'Israël, tu ne pleureras plus, car dès qu'il aura entendu, il agira. Et puis, dans son action, le prophète mentionne, et cette parole a une portée prophétique, le Seigneur votre Dieu vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Gloire à Dieu. Du pain dans l'angoisse, eh bien, prophétiquement, il est question de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se déclare lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Amen. Le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui communique la vie au monde. Le vrai pain de Dieu. Il communique la vie non pas à Israël, mais il communique la vie au monde. Nous sommes sur le terrain combien merveilleux de l'universalité du salut. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et puis, il va parler après, toujours dans le même texte, de sa qualité de pain de vie. Je suis le pain de vie. Initialement, il se déclare le pain vivant, le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Après, il va parler du pain de vie. Cela veut dire, derrière ce pain de vie, il y a l'image de Jésus qui entretient désormais sa vie en nous par le Saint-Esprit. Et dans cet entretien de sa vie en moi, vous savez ce qu'il fait? Il rassasie mon âme. Il rassasie mon âme. Non seulement il la nourrit, sa chair est une nourriture, mais il l'abreuve aussi. C'est-à-dire, il la désaltère. Ben, il la boive, il la désaltère, parce que son sang est un breuvage. Amen. Et puis, lorsqu'il a déclaré ces paroles, ceux qui l'ont entendu ont été scandalisés, mais le Seigneur va leur dire, ces paroles sont esprit et vie. Qu'est-ce que cela signifie, pasteur Gentil? Ce sont des paroles qui doivent être reçues, comprises spirituellement, pour produire son effet spirituel dans mon cœur et dans ma vie. Alléluia. Et puis, il dira à ses contemporains, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors, S'étant été scandalisé, faisant un rapport entre ce que Jésus dit et ce qui est humain, alors c'est comme s'il se posait la question, est-ce que pour avoir la vie de Jésus en moi, je dois devenir un anthropophage ? Anthropophage mangeant de la chair humaine. Comme un certain monsieur qu'on appelait... Je n'ai pas voulu le dire, hein, mais j'ai entendu quelqu'un le souffler par là. Voilà. Et même quelquefois, dans certaines situations, il y en a des personnes qui mangent de la chair humaine. C'est abominable. Nous pouvons que le constater, mais pour celui qui le faisait, c'est pas abominable. Hein. Parce qu'il y avait certains qui recherchaient comme une marque qui découle de la sorcellerie pour avoir de la puissance. Enfin, ça, c'est le monde des ténèbres. Hein. Mais ce matin, nous sommes dans le monde de la lumière. Amen. Alors, regardons ce que le maître dit ce matin et écoutons surtout et essayons de suivre Jésus dans ce qu'il dit. Qu'est-ce que Jésus dit ce matin? Alors, moi, j'ai trouvé ce que Jésus dit quand j'ai regardé l'évangile de Jean au chapitre 6 où le Saint-Esprit m'a arrêté à partir du verset que je vais vous communiquer, que je ne vais pas tarder à vous communiquer, que je vais bientôt vous communiquer et que je vous communique. C'est le verset 26. Alors, Jean, chapitre 6, verset 26. Et vous serez unanime avec moi ce matin de comprendre que lorsque Jésus commence une phrase par cette déclaration en vérité, cela veut dire que ce qui va suivre mérite que nous y attachions une grande importance, l'importance requise, et que derrière ce que Jésus dit par l'expression en vérité, il y a quelque chose de structurel, de fondamental, qui est nécessaire, qui est utile, et qui est aussi obligatoire de comprendre dans la manière où le Saint-Esprit va ouvrir notre esprit et où Dieu va renouveler notre intelligence pour pouvoir adhérer à ce que le Maître dit. Alors le Maître dit ce matin, alors en vérité, Jésus qui parle, hein, Jésus le répondit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été, dites avec moi, rassasiés. Donc Jésus avait compris, et dans cette déclaration, puisque c'est le récit qui vient après la multiplication des pains, Jésus, eh bien, voyant la foule, il a dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Et puis voici qu'un détail arrive, Jésus dit ces paroles afin de les éprouver parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il allait faire, ce qu'il va faire. Il sait toujours ce qu'il a à faire et ce qu'il a à faire, dites avec moi, il le fait. Et laissez-moi vous dire que quand il le fait, une fois que Jésus a fait, ce qu'il fait peut-être ne va pas correspondre à ce que j'attends, mais il le fait dans un but précis. Il le fait toujours pour que le Père soit glorifié. Alors, il déclare, vous donner réponse à une question qui lui a été posée au verset 25, il y a trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Voici la réponse de Jésus, on vient de le lire, en vérité, jusqu'à ce que nous arrivions au mot « rassasié ». Verset 27, il leur dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu, dites avec moi, lui-même, c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. C'est très intéressant. C'est très intéressant, les paroles que Jésus prononce. Et il continue ce qui lui avait posé la première question. Après la déclaration de Jésus, vous montrez au travers de cette question un peu comme leur insatisfaction. Ils ne sont pas satisfaits de ce que Jésus a dit. Alors, il continue. Que devons-nous faire pour accomplir, notez bien, accomplir, lisez le plus fort, les œuvres de Dieu. Pourquoi je vous demande de le lire plus fort? Parce que dans la réponse de Jésus, les choses vont être restreintes. Regardez. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. Quoi? Ah. Il demande à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres? On est toujours prêt à faire beaucoup d'œuvres. Car quand je fais beaucoup d'œuvres, je me fais beaucoup voir. Et en me faisant beaucoup voir, même si ce n'est pas de manière intentionnelle, il y aura cette partie qui va consister à attirer les regards sur moi. C'est pas la peine que vous me dites, c'est comme ça que ça se passe. Notre vie et nature, elle est comme ça. Toujours essayer de s'attirer une quelconque gloire pour paraître, pour exister, pour montrer. Mais là, le Seigneur dit l'œuvre de Dieu. Et quand dit l'œuvre de Dieu, nous devons comprendre que derrière cette déclaration de Jésus, nous devons comprendre ce à quoi Dieu travaille particulièrement. C'est quoi? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est beau, ça. Donc, tout le travail que Dieu fait, à quoi il travaille? C'est que de plus en plus, je crois en Jésus. Vous vous rappelez quand les 70 sont revenus de mission? Ils sont revenus de mission, non pas tout tristes, mais ils sont revenus de mission joyeux. Tellement joyeux qu'ils diraient à Jésus, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia! Ils sont revenus joyeux. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va leur confirmer ce que leurs yeux n'ont pas vu, mais que lui, comme fils de l'homme, fils de Dieu et Dieu lui-même, a vu. Cela veut dire que la puissance de Satan dans les lieux atmosphériques, par l'envoi des 70 en mission et par le pouvoir que leur avait confié Jésus, la puissance de Satan dans les lieux atmosphériques a été ébranlée. Alléluia! De telle manière que Jésus leur dira ce que leurs yeux n'ont pas vu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsqu'on est dans le combat sur la terre, luttant contre les puissances des ténèbres, que Jésus-Christ a vaincu à la croix du calvaire, mais le Saint-Esprit entre en action, et par nos prières, nos interventions, notre union dans la foi, eh bien, il se passe quelque chose que nos yeux ne voient pas, mais qui est réel devant Dieu. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais cependant, Jésus va les ramener toujours à la priorité divine. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Voici ce qui doit être l'objet de votre réjouissance. Réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Or, mon nom ne peut être inscrit dans les cieux si je n'ai pas accepté Jésus comme sauveur. Repentance, conversion, nouvelle naissance, obéissance et engagement. Alléluia. Donc, revenons à notre lecture. Et regardons ce que le maître dit. Il va d'abord parler de ce qui le concerne lui. Et il a déclaré, vous l'avez lu avec moi, travaillez non pour la nourriture, verset 27, qui périt, mais pour celle qui subsiste, et pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même. Et puis l'expression qui est mentionnée après,
va être le point de départ de notre méditation de ce matin. Lui que le Père lui-même a marqué de son sceau. Jésus a été marqué du sceau de Dieu. Dans la logique, si nous prenons la logique en regardant qui est Jésus, avant d'exister, de prendre le nom de Jésus, il existe en tant que Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne l'ai pas inventé, c'est la réalité de l'Écriture. Et lorsqu'il commence son ministère public, particulièrement à Nazareth, et vous qui étiez là dimanche dernier au moment de l'évangélisation, je finis de diriger le cantique, je laisse la place au frère Moïse Arou, et au moment où je vais laisser la place, voici que le Saint-Esprit me conduit à mentionner la déclaration de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 14, où nous lisons ceci, « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il avait d'abord été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, et il est revenu dans le ministère maintenant, mais il est revêtu. » Cela veut dire, frères et sœurs en Christ, que lorsque nous lisons ce texte où eh bien, Jésus va montrer véritablement ce qui le concerne, marqué du sceau, eh bien, il y a entre ce que Jésus dit là et la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, quelque chose de similaire. Oh, je sais, vous me direz, pasteur gentil, mais l'onction qui était sur Jésus par le Saint-Esprit, puisqu'il le dit dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il va montrer, hein, comme une palette divine, eh bien, l'attribution de la mission dans laquelle Dieu l'a introduit, il m'a oint. L'onction, il m'a oint, est la première chose pour annoncer. Annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Et derrière ce mot pauvre, il ne faut pas que nous puissions nous arrêter simplement à l'énoncer et voir la pauvreté dans le sens où nous regarderions les clochards de Paris, les miséreux, les malheureux, certes, ils sont au nombre de ceux que nous pourrions considérer comme étant bénéficiaires de la parole de Jésus, mais dans la réalité profonde et dans l'intelligence que donnent les Saintes Écritures, nous devons plutôt comprendre et surtout ne pas négliger ce que Jésus veut que nous puissions comprendre. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et la première chose que Dieu fait, c'est de nous montrer que malgré les années de vie religieuse, malgré les années de pratique religieuse, malgré nos origines, gens de bonne famille, bien éduqués, qui avons reçu de bonnes valeurs morales, on n'est pas autre chose à ses yeux que des pécheurs. Et en tant que pécheurs, même si nous avons une essence matérielle, mais spirituellement, nous sommes limités. Et celui qui était riche dans le ciel, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alléluia. Et je comprends l'apôtre lorsqu'il dit aux Philippiens, ainsi donc je connaîtrai Christ. Connaître Christ. Et aussitôt après, il mentionne et la puissance de sa résurrection. Mais il n'oublie pas de mentionner dans la même équation la communion à ses souffrances. Et quand j'ai regardé cela, le Saint-Esprit me montrait, comme vous qui êtes fort en mathématiques, comme une équation divine. Où, sur la première barre, nous mettrions Jésus multiplié par la connaissance, mais en dessous de la barre, nous installerons moins l'ignorance. Car plus je connais Jésus, moins je suis ignorant. Et c'est à partir de là, frères et sœurs en Christ, que ma vie chrétienne, autant dans la communion avec le Christ,
autant dans le zèle pour Jésus-Christ, autant dans les éléments qui vont m'aider à avancer, à combattre, à persévérer, eh bien, sera agréable devant mon Dieu. Amen. Oh, je n'ai pas, comme certains, fait des années de théologie. Je n'ai pas à rester dans les Saintes Écritures toute la journée pour avoir une tête de cette grosseur-là dans la connaissance. C'est pas ça. Tout d'abord commence par la communion avec mon Dieu. Et c'est de cette communion-là que je vais puiser tout ce qui m'est nécessaire et suffisant pour avancer. Ainsi, je connaîtrai Christ et la communion à ses souffrances. Quand je comprends que derrière les souffrances de Jésus, il y a ce qui va amener pour moi deux garanties, le salut de mon âme par le pardon de mes péchés, mais aussi ce qui découle après la résurrection, l'ascension au trône céleste, et qui va me donner, comme le dit l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 1er, « Ainsi donc, étant justifié par la foi, la justification par la foi, qui n'a rien à voir avec la justification qui était recherchée dans la loi. » Ah, rien à voir. Parce que la justification de la loi exigeait que l'Hébreu, il fasse des sacrifices. Car la loi disait « Fais et tu arriveras à une certaine justice. » Et derrière cette expression, il y a à comprendre que si je transgressais un seul commandement des 10, j'étais coupable des 9 autres. Parce que la loi n'a jamais rien amené à la perfection. Mais la loi a été promulguée dans un temps, jusqu'à ce que arrive un temps de réformation ou de réforme. Parce que la loi disait fait et tu arrives à cette injustice, mais quand Dieu va promulguer la grâce, des siècles avant la venue de Jésus, vous lirez chez vous Jérémie 31, et vous trouverez dans l'énoncé ce que Dieu entrevoit. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Cette alliance-là ne sera pas comme l'alliance que je conclus avec vos pères, alliance qu'ils ont violée. Et après, Dieu va donner les clauses de l'alliance. J'inscris mes lois dans leur cœur. Je les écris dans leurs pensées. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Est-ce que Dieu est notre Père ce matin? Il est notre Père, il est notre Dieu. Il nous a adoptés en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, quand nous vivons cela, je sais, on peut avoir des épreuves, on peut avoir des combats, mais notre âme en nous ne peut que bondir, exulter de joie et glorifier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné au travers l'œuvre rédemptrice de Jésus. Et qui fait que ce matin, vous, moi, même si nous avons des degrés de connaissances différentes, même si nous avons des degrés de foi différents, même si nous sommes des êtres différents, mais nous sommes au bénéfice de la même grâce. Alléluia. Même si nous avons des différentes épreuves, nous sommes dans la main du Tout-Puissant. Alors rien que cela, frères et sœurs en Christ, cela ne peut être qu'un sujet de joie pour nous, pour vous, pour moi, pour nous, dans la présence du Maître ce matin. Parce que Jésus est au milieu de nous. Et dans la présence de Jésus, je ne peux pas me permettre de me laisser aller à des jérémiades sans fin, à des lamentations matin, midi et soir, à tirer l'arigot. Non, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. La première chose que fait le psalmiste, il confesse, car c'est lui qui pardonne tes péchés, pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tes maladies. Il ne peut en parler s'il n'eût fait l'expérience. Il a fait l'expérience, comme toi, comme moi ce matin. Alors, regardons dans la déclaration de Jésus, pour en même entrer un peu plus profondément dans des guerres marquées de son sommet. En ce qui concerne Jésus, cela s'est vérifié dans Romains 1 au verset 1 à 4, lorsque l'apôtre mentionne que Jésus a été déclaré fils avec puissance et gloire à sa résurrection d'entre les morts. Alors laissez-moi vous dire, qui c'est qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Est-ce que Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même? Non, un mort ne peut pas se ressusciter lui-même, mais Dieu peut ressusciter un mort. Alléluia. La différence entre Jésus ressuscité et Lazare ressuscité, c'est que Lazare ressuscité, eh bien un jour devait encore remourir. Excusez-moi du terme. Mais oui, à Béthanie, Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus l'a ressuscité, il a glorifié Dieu. Mais Lazare, qui a été ressuscité par Jésus, je peux dire, il était ressuscité pour remourir. Oui, parce que Lazare ne vit pas éternellement, mais Jésus. Mais Jésus. Apocalypse, chapitre 1er. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Oh, vous connaissez beaucoup qui ont fait cette déclaration-là? Et on dit, alors, quand on est mort, on est bien mort. Mais Jésus était mort. Mais Dieu l'a ressuscité. C'est lui qui a été marqué du sceau. Il a été marqué du sceau de la résurrection. Alors, regardez un peu ce que derrière cette parole, je peux trouver pour moi, pour vous, pour nous ce matin, dans la même tranche de pensée. Alors, nous allons le trouver dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 19. Voir ce que Dieu veut que je saisisse. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché parmi nous, au milieu de vous. Prêché par nous au milieu de vous. Comme ici. Par moi, par Sylvain, par Timothée, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Que le oui. Et quand je dis il n'y a que le oui, eh bien, aussitôt après, je dis amen. En lui, il n'y a que le oui. Une interjection affirmative qui dénote la certitude accompagnée de l'assurance me fait me dresser comme un « i » pour montrer que derrière ce que je lis, je comprends. J'adhère, je crois, je vis. Alors parce que je comprends, j'adhère, je vis, je crois, alors je vois. Il n'y a que le oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et d'ailleurs, ce oui, vous allez voir tout de suite qu'il y a quelqu'un. Hein? Il y a des oui, me voici, envoie-moi. Dans tout ce que le Père a convenu, Jésus a dit oui. Oui, Père, j'irai. Toutes circonstances, toujours d'accord. Parce qu'il voulait voir le Père être glorifié. Et le Père se glorifiait dans son Fils. Alléluia. Quel amour merveilleux. C'est pourquoi, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et verset 21, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Le même Dieu qui a oint Jésus-Christ avec l'onction bénie dont il fait mention dans l'évangile de Jean, c'est le même qui nous a oint. Dieu nous a oint de son esprit. Et en nous oignant de son esprit, il nous démarque du commun des mortels. Il authentifie de cette manière son amour pour chacun d'entre nous. Il nous marque comme étant des citoyens déçus. Parce que lorsque nous lisons cela un peu plus bas, lequel nous a marqué, verset 22, donc oint et après, aussi marqué du sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Jésus dit, celui que le Père, que Dieu lui-même a oint. Et dans le même principe, c'est ce qui est notre partage ce matin. Or, vous savez, frères et sœurs en Christ, dans le processus des Saintes Écritures, j'ai eu l'occasion de vous en parler lors d'autres partages, le sceau, dans le plan divin, nous confère trois réalités. Trois réalités qui, lorsque véritablement nous y avons adhéré, produit dans nos cœurs un travail merveilleux qui permet au Saint-Esprit d'œuvrer. Et nous allons le voir tout à l'heure si le temps nous le permet. Lorsque Dieu nous a oint du Saint-Esprit, quand il a mis sur nous son sceau, la première chose que fait le sceau ou que montre le sceau, cela va nous montrer, nous fait rentrer dans une réalité spirituelle divine. Le sceau va montrer, premièrement, la conclusion d'un contrat. Le contrat a été conclu. Le sceau est mis. Quel contrat, pasteur Gentil? Eh bien, cela veut dire que le contrat conclu n'est pas autre chose que la mise en place de la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancien contrat, je n'avais pas de part, hein. Mais j'étais étranger aux alliances de la promesse. Il n'y a pas de part, moi. J'étais païen d'origine, étranger aux alliances de la promesse. Ils étaient dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais quand la grâce de Dieu nous a été accordée, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de son amour pour nous. Le contrat a été conclu. C'est-à-dire que Dieu officialise dans mon cœur ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. Ça, c'est pas religieux. Ce n'est pas administratif. Ce n'est pas humain, c'est divin. Or, si c'est divin, c'est céleste. Alléluia. Si vous allez dans une mairie ou un bâtiment, vous avez besoin de documents administratifs. Celui qui le rédige va vous le préparer. Mais après l'avoir préparé, avant de vous le délivrer, il faut qu'il l'officialise avec le sceau. Le sceau qui est une garantie que cela vient de l'organisme qui vous l'a délivré. En nous marquant de son sceau, Dieu dit, je suis d'accord. Je te reçois. Ce n'est pas un organisme humain qui met le sceau sur ton cœur, sur ton âme et sur ta vie, mais c'est le sceau divin. Amen. Est-ce qu'on dit amen ce matin? Amen. Deuxième chose que nous confère le fait que Dieu nous ait marqué de son sceau. Eh bien, le sceau aussi va nous montrer quelque chose qui découle obligatoirement. Désormais, Dieu dit, je te marque de mon sceau. Cela veut dire que tu es ma propriété. Désormais, tu m'appartiens. Jésus a été déclaré fils de Dieu avec force et puissance par sa résurrection d'entre les morts. Moi, je ne suis pas Jésus, mais quand j'ai été marqué du sceau de Dieu, Dieu dit désormais, tu m'appartiens, alors tu es au bénéfice de ceux à qui Jésus a déclaré, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Cela va dire que Dieu va authentifier la réalité de la vie éternelle dans ton cœur. Ce n'est pas quelque chose qui va pour toi être illusoire, comme un conte des frères Grimm, etc. Non. C'est une réalité spirituelle, divine, dans laquelle Dieu t'introduit et qui découle de la volonté de Dieu, du plan béni de Dieu pour Jésus, mais que Jésus met en toi par le Saint-Esprit. Et quand tu as ça en toi, quand tu vis ces choses, tu sais qu'un jour tu vas quitter la terre, certes. Mais Dieu au préalable t'a montré que par l'œuvre de Jésus, ainsi, il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient retenus dans la servitude. Dieu t'a délivré de la crainte de la mort. Or, tu ne cherches pas à mourir. Tu as compris que devant Dieu, il n'est pas question de se suicider, même si je souffre. Je m'attends à mon Dieu, je suis dans sa main. Et si je suis éprouvé, il le sait. Mais sa parole me dit, il a préparé pour moi le moyen d'en sortir. Vous savez comment je parle à mon Seigneur quand il y a une difficulté qui semblerait vouloir m'engloutir ou je dis Seigneur, cette situation, j'en suis confronté. Mais Seigneur, je suis ton enfant. Alors si moi j'en suis confronté, toi aussi tu es confronté, Seigneur, hein? Au début de ma conversion, frères et sœurs en Christ, j'étais dans une situation matérielle très, très difficile et précaire. Oh, mes bien-aimés, vous savez, quand Dieu prend un homme en main, quand Dieu prend quelqu'un en main, il vous prend avec tout ce qui vous concerne. Il ne faut pas que vous puissiez vous faire de soucis de manière inconsidérée. Moi, quand j'ai recevé la facture, et que j'avais pas de quoi payer, je disais, Seigneur, tu vois la facture qui est arrivée, elle est à mon nom. Mais Seigneur, j'ai pas le moyen de régler. Mais comme je suis ton enfant, alors Seigneur, elle est aussi à ton nom. Hein. Ah, c'était ma démarche personnelle. Ne faites pas comme moi. Hein. C'était ma relation avec mon Dieu. Je lui parlais ainsi. Et vous savez ce qui s'est passé à un moment donné, alors que la pile de factures était sur le buffet comme ça, progressivement j'ai vu qu'il commençait à descendre. Jusqu'au jour où je regardais, il n'y en avait plus. Parce que celui qui m'a adopté en Jésus-Christ, il m'a laissé la possibilité de tirer profit de mes erreurs du passé. Car la pile de factures, c'était mes erreurs. C'était mes erreurs. Ma mauvaise gérance, ma légèreté. Parce que quand j'étais dans le monde, alors la facture, je la recevais, mais je posais ça là, j'avais pas le temps. Hein. Je verrai ça plus tard. Mais le plus tard, faut souvent, c'était trop tard. La majoration n'attendait pas. Mais écoutez, je vous dis tout ce matin, je suis dans la présence de Jésus. Hein. Je ne suis pas autant dans votre présence, je suis dans la présence de mon maître, de Jésus-Christ. Alors, il sait. Mais lorsqu'il a vu que j'avais reconnu mes erreurs, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à me donner le secours, tout en m'aidant à tirer profit de ses erreurs passées. C'est-à-dire, il m'a simplement amené à savoir gérer ce que je gagnais. Et progressivement, par sa grâce, hein, bien, il m'a délivré de toute mauvaise gérance, de telle manière que maintenant, s'il m'arrive, et cela m'arrive, je vous dis tout dans la présence de Jésus, de prendre un PV. Oui, quelquefois, le flash ne vous avertit pas, hein, mais ça m'est arrivé de prendre un PV. Mais dans ce cadre-là, c'est là, frères et sœurs en Christ, que Dieu nous rend intelligents. Dans ces circonstances-là, vous savez, il y a deux attitudes. On peut avoir à agir par son mental, mentale, l'ensemble de mes facultés psychiques, ou je peux agir maintenant aussi par la conscience. Bon, la conscience, pour exister, a toujours besoin de s'attacher à une loi qui existe. Et je pourrais prendre l'exemple de ce monsieur qui va faire ses courses. Je l'ai déjà pris ici, il y a longtemps, mais je le prends ce matin. Il va faire ses courses, et malheureusement, comme cela arrive, quelquefois, il n'y a pas de place. Mais juste devant la boulangerie, il voit qu'il y a une place réservée à la livraison. Il dit, mais le temps de prendre une baguette, je ne sais pas pour longtemps, je vais me mettre là. Ça, c'est son mental qui le lui dit, l'ensemble de ses pensées. Mais sa conscience lui dit tout de suite, non, ne te mets pas là, c'est une place réservée. Si l'agent de police passe, tu auras un PV. Ah ben, il fait taire sa conscience. Non. Je n'ai pas pour longtemps, il raisonne. Ça se passe à l'intérieur, hein. Je me mets là, j'en ai pas pour longtemps, je me dépêche. Et lorsque tu arrives dans la boulangerie, il y a une queue, tu es obligé de prendre ta place dans la queue. Et pendant que tu passes, le dos tourné, l'agent de police passe. La première chose qu'il voit, un véhicule garé là où il ne faut pas. Et comme il a, c'est son métier, il te met un procès verbal. Tu sors de la boulangerie. Ta baguette est dans la main. Elle sent bon, elle est fraîche. Même fois, tu casses la tête. Tu manges le bout de baguette, tu viens, tu es content. Mais la première chose que tu remarques, sur le pare-brise, il y a le PV. Ah, ta joie s'en va, t'es contrarié. Ta conscience t'interpelle. Je t'avais dit de pas mettre la voiture là, tu aurais un PV. Mais tu as fait taire ta conscience. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors tu prends le PV, tu rentres dans la voiture. Ou la boîte à gants. Bam! Ne mets pas le PV dans la boîte à gants, tu vas l'oublier. Et si tu l'oublies, il y aura une majoration. Tu fais taire à nouveau ta conscience. Mais non, bon, tu es tellement en colère. Et comme ta conscience te l'a dicté, tu oublies le PV. Et un mois après, tu reçois le rappel. Mais le rappel majoré, c'est ce que ta conscience t'a dit. Mais tu as fait taire ta conscience. Mais quand le Saint-Esprit est en nous, habite en nous, et que nous avons reçu l'onction de Dieu, il nous aide justement à faire ce qui est conforme à ce que Dieu attend de nous. Et ceci dans beaucoup de circonstances de la vie. Oh, pasteur gentil, ce matin, vous nous faites entendre des choses étranges. Oh, c'est pas étrange du tout. C'est un peu le mode de fonctionnement de chacun d'entre nous. C'est de l'évangile pratique. La conclusion du contrat, le sceau est mis. Le signe de la propriété, le sceau est mis. Et puis après, une fois que Dieu a mis en moi son onction, son esprit, montrer que le contrat est conclu, je suis sa propriété, en tant que tel, le Saint-Esprit va authentifier un troisième point important qui découle du sceau, ce que Dieu a mis sur moi. Et ce sceau était particulièrement sur Jésus dans son ministère terrestre. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, dans la maison de Corneille. C'est une déclaration qui est merveilleuse et qui concerne le Seigneur Jésus-Christ dans le ministère. Vous savez comment Dieu a oint, alléluia, du Saint-Esprit et de force. Qui? Jésus de Nazareth. L'onction pour le service. Il est de lieu en lieu. Partout où il allait, il faisait bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Conclusion, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Je l'avais dit que frères et sœurs en Christ, dans le ministère de Jésus, fort souvent, ses contemporains, gens religieux, qui n'était pas du tout d'accord avec la manière que Jésus agissait pour glorifier le Père. Constamment, Jésus était en butte aux gens religieux, scribes et pharisiens, s'opposaient à Jésus. Chef de synagogue, encrouté dans la loi de Moïse, mais malheureusement substituant à la loi de Moïse la tradition des pères, auxquels étaient très attachés, et constamment, ils étaient en train d'épier Jésus pour le suspendre en flagrant délit de transgresseur de la loi. Et même quelquefois, ils voulaient attenter à la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous lisons, et personne ne mit la main sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Alors, si Dieu t'a marqué de son sceau, s'il te dit la conclusion du contrat a été effective, s'il te dit maintenant que tu es son enfant, signe de la propriété, eh bien, le troisième point n'est pas du tout négligeable. Cela nous parle du gage de la sécurité. Gage de la sécurité. Dieu te dit, avec moi, tu es en pleine sécurité. Jésus-Christ est ta sécurité. Car si l'Éternel n'était pas mon secours, il y a longtemps que mon pied serait dans le séjour des morts. Mais quand je dis mon pied chancelle, alors ta bonté, ô Dieu, me sert d'appui. Celui qui parle ainsi, il est là ce matin. Je dis que pour toi, le contrat de la nouvelle alliance a été conclu et tu as part. C'est une alliance en tout point bien réglée. C'est une alliance scellée. C'est une alliance qui te garantit des meilleures promesses que ne garantissait la loi, mais qui découle de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du calvaire, qui fait que Dieu est pleinement satisfait et sa grâce pleinement accordée. Amen. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma sœur, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi en Jésus-Christ. Quelqu'un avant moi a dit réjouissez-vous, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, marqué de son sceau. Et puis, si nous allons un petit peu plus loin, oh, je n'ai pas le temps de vous parler des attributs que va manifester le Saint-Esprit une fois que Dieu a mis sur moi son sceau. Ce que Jésus a parlé dans l'évangile de Jean, je peux vous donner la référence. Au chapitre 16, à partir du verset 13, Jésus va nous donner quelques attributs du Consolateur quand il viendra. Regardez avec moi si vous voulez. Hein. Jean 16, verset 13. Vous nous montrez un peu ce que par l'onction, Dieu est capable d'accomplir dans nos vies. Par le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, quel est ce Consolateur? L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit qui habitait en Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Mais c'est le même l'Esprit qu'il a reçu et qu'il a répandu le jour de la Pentecôte, comme vous le voyez et comme vous l'entendez. En un mot, le Saint-Esprit qui habite en moi, en nous, en toi, ce matin. Et qui dans cette œuvre est actif pour diriger l'Église d'après le conseil du Très-Haut. Amen. Regardez ce que fait le Saint-Esprit d'après les paroles de Jésus. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans... Ah, et me conduisant dans toute la vérité, je suis gardé de l'erreur. Et... il y a aujourd'hui dans le milieu évangélique beaucoup d'erreurs qui se sont glissées. Erreurs auxquelles malheureusement certains ont adhéré, qui malheureusement créent beaucoup de confusion dans les cœurs. Je me garderai bien
d'en citer la liste, mais elle serait longue. Et c'est pour cela que je bénis Dieu dans cette assemblée. Depuis des années, vous, moi, comme enfants de Dieu, nous avons été enseignés. Et c'est l'enseignement que nous avons reçu qui nous donne d'avoir, non pas un avis personnel, mais un avis tranché, conforme à l'Écriture. Et même si on est taxé de fondamentaliste, même si certains disent qu'à rencontre espérance, ceci ou cela, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui m'intéresse, c'est l'Écriture. Et l'action du Saint-Esprit qui me donne l'intelligence pour comprendre. Mais, je suis obligé de constater que, au milieu de nous, il y a certains qui ne sont pas d'avis tranché. Alors, s'ils ne sont pas d'avis tranché, ça balance un petit peu à droite et à gauche. Ils ne sont pas centrés sur la réalité du Saint-Esprit dans les Saintes Écritures et dans sa manifestation, de telle manière que, eh bien, ils peuvent avoir cette réflexion, ça ne me dérange pas. Ça te dérange pas, moi ça me dérange. Parce que moi je m'attache à ce qui est écrit. Et depuis bébé, c'est comme ça que Dieu m'a enseigné. À m'attacher à l'Écriture. Les femmes qui prêchent, dans certaines églises, la tolérance du jus de raisin, et ça part dans tous les sens. Mais dans cette assemblée, nous restons dans le fondement des Saintes Écritures. Fondement des Saintes Écritures. Je me dis, ah, mais monsieur Gentil ou pasteur Gentil, vous êtes trop dur. Pour vous, un Jean. Ah, j'ai pas fini la lecture, j'ai pas fini la lecture. Ah ben voilà. Toute la vérité, on était à toute la vérité. Toute la vérité de l'Écriture. Bon, bien, tiens, voilà, pendant que je vous dis ça, le Seigneur me rappelle quelque chose. Je suis obligé de vous le dire. Le jour de la résurrection de Jésus. La Bible nous dit, et voici deux disciples, ce même jour. Ils ont quitté Jérusalem, lieu particulièrement important, le jour de la résurrection de Jésus. S'il y avait un lieu où il fallait être, c'était bien Jérusalem, c'est là que Jésus est mort, c'est là qu'il est ressuscité. Mais voici que se dirige vers un village nommé Emmaüs, distant d'environ 11 kilomètres. Et pendant 11 kilomètres, ils ont eu le temps de discuter, de partager, de raisonner, de manifester leur désappointement, leur découragement, leur incompréhension. Et lorsque Jésus arrive à leur portée et qu'il leur pose la question, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez si triste? Mais... es-tu le seul qui demeura à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est passé aujourd'hui en ce qui concerne Jésus de Nazareth? Nous espérions que ce sera lieu. Enfin, ah, il est vrai que quelques femmes nous ont bien dit qu'il est ressuscité, mais lui, vous savez, ça veut dire, ils sont dans un état de découragement lamentable, qui malheureusement n'est pas chose que le fruit de leurs pensées, et ce à quoi ils ont adhéré, puisqu'ils ont tourné le dos à Jérusalem. Et il se dirige vers Emmaüs. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à prendre les Saintes Écritures. Il a commencé par Moïse et les prophètes. Et qu'a-t-il fait? Il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez dit, Jésus ne tient pas compte d'une situation qui découle de mon incompréhension, ce qui a causé mon découragement, ce qui me plonge dans un état de tristesse lamentable, alors que Jésus est ressuscité. Il leur a expliqué. Et au fur et à mesure que Jésus leur expliquait, oh, les yeux ne voyaient rien, mais ça se passait à l'intérieur. De telle manière que lorsque Jésus a disparu devant eux, après qu'ils eurent rompu le pain pour retourner vers ceux qui étaient rassemblés, leur confession a été changée. Nos cœurs. Le bruit est-il par dedans de nous lorsqu'en chemin nous allions et qu'il nous expliquait les Écritures? Oh, quand Dieu t'explique quelque chose et que tu le comprends, ça ne reste jamais sans effet. Alléluia. Oui, le maître t'explique ce que tu dois comprendre. Il prend le temps avec toi. Si tu n'as pas compris, il revient t'expliquer la même chose. Jusqu'à ce que ton intelligence s'ouvre, ton esprit comprend, ton cœur reçoit. Et à ce moment-là, cela produit son effet. Oh, alléluia. Ah, c'est ça. Merci Seigneur, j'ai compris. Et quand tu as compris, tu bénis Dieu. Alléluia. Tu comprends ce matin ce que Jésus te dit? Oui, tu comprends. Le Seigneur te le fait comprendre. 1 Jean 1. J'ai fini la lecture, non? Ah, je ne l'ai pas fini, hein? Non, je ne l'ai pas fini. Alors, on va la finir. Alors, j'étais arrêté toute la vérité, toute la vérité. La première phrase, la fin, avant la virgule, qui va nous introduire, mais il dira. Donc, je reprends le tout. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Or, le Saint-Esprit est lié à l'Écriture. Il est lié à l'Écriture. Et le Saint-Esprit n'est pas lié seulement à l'Écriture, il est lié à Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Et la parole écrite. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, il dit, il vous annoncera les choses, mais il dira, tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, et pour conclusion, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Voilà les attributions du Saint-Esprit, mais encore faut-il que tu sois au bénéfice de ce que l'apôtre dit dans la lettre qu'il envoie à l'église primitive dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 20. Et nous allons tout doucement vers le thème de ce moment, car ce que Dieu nous dit ce matin est d'une grande importance en ce dimanche de Pentecôte. Oui, c'est le dimanche de la Pentecôte aujourd'hui. Oui, la Pentecôte, il y avait la fête. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Hein. Bon, j'entends des remous. Avant que les remous deviennent des vagues, il faut que je puisse savoir si je suis dans l'ouest. Hein. Oui, alors, on y va. J'ai dit quoi? 1 Jean 2, 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est. Et vous avez tous la connaissance. Je l'avais dit que dès lors que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu as la connaissance. Et une des connaissances fondamentales, tu sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car personne ne peut déclarer que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez combien de certaines catégories de gens religieux, encroutés même dans la religion, qui disent que Dieu n'a pas de fils. Mais moi je déclare, et vous le déclarez avec moi, amen. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et
Le témoignage de la parole de Dieu m'est pleinement suffisant. Si quelqu'un ne reconnaît pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a pas le Père. Il n'a pas le Père. Et moi, ce matin, béni soit Dieu, parce que je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, j'ai le Père, j'ai le Fils, et j'ai le Saint-Esprit qui m'a oint. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez la connaissance, connaissance fondamentale, initiale, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis après, on peut mettre mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, glorifié à la droite du Père, intronisé dans le ciel, intercédant auprès de lui en notre faveur, et revenant chercher ce qu'il attend pour leur salut, dont nous faisons partie ce matin. Alors, pour vous, vous avez reçu l'onction de celui, de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Et puis il continue, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Est-ce que ce matin nous connaissons la vérité? Oui. Nous connaissons la vérité et nous donnons un nom à la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Alléluia. Là, nous ne sommes pas sur un terrain politique. Nous ne sommes pas sur un terrain humain. Nous ne sommes pas non plus sur un terrain religieux. Nous sommes sur un terrain spirituel. Nous vivons les choses de Dieu spirituellement, par l'Esprit de notre Dieu à qui nous rendons le culte ce matin. Les circoncis, c'est nous qui rendrons à Dieu notre culte par l'Esprit de notre Dieu. Alors, continuons. Verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin toujours qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, dites avec moi, toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, alors demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Quand le Saint-Esprit habite en moi, non seulement il me donne à recevoir l'enseignement qui est conforme à ce que Jésus dit, mais il réfute tout enseignement étranger. Je ne peux y adhérer. Je ne peux l'admettre. Je ne peux le supporter. Ça ne monte pas! Car c'est pas conforme à ce que Jésus dit. Mais encore faut-il que le Saint-Esprit soit en action. Car quand l'apôtre Jean dit, vous avez reçu l'onction, n'allez pas croire qu'il veut spécialement parler de la puissance de Dieu qui vient sur toi et qui te fait trembler, etc. Tellement parce qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on est rempli de l'esprit, il faut trembler, il faut avoir des soubresauts pour montrer. Calme-toi, calme-toi, c'est pas ça. C'est pas ça l'onction. Plus tu es rempli de l'esprit, plus tu es maître de toi-même.
Amen.
Plus tu es rempli de l'esprit, plus tu es sage. Car l'esprit, c'est un esprit de sagesse. Le Saint-Esprit qui te remplit te donne la maîtrise de toi-même. Car quand tu fais des soubresauts pour montrer que tu es rempli, dans la réalité, c'est ta chair qui s'agite. Ta chair qui s'excite. Dieu n'est pas là-dedans. Avez-vous déjà vu Jésus qui était rempli du Saint-Esprit s'agiter? Certaines personnes pensent que pour montrer qu'on est rempli de l'Esprit, il faut qu'il y ait... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, le Saint-Esprit. L'Esprit nous enseigne. Il nous enseigne la maîtrise de soi. Il nous enseigne la réflexion. Il nous amène le discernement. Il nous plonge dans la crainte de Dieu. De telle manière que ma vie personnelle, par le Saint-Esprit, va servir dans les attributs que lui confère Jésus-Christ dans Jean 16, verset 13, la conclusion, il me glorifiera. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus je suis conduit à glorifier Jésus. Plus le Saint-Esprit est actif dans une église, plus l'église glorifie Jésus. Ça va toujours? Vous aimez les secrets? Mais il n'y en a pas le secret ce matin. Oh, c'est pas ça. Vous savez, on est la grande famille de Dieu. Et ce n'est pas véritablement un secret, c'est ma manière de parler à Jésus, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux que je donne ce matin? Vous savez, même si nous sommes des serviteurs du Christ, quelquefois, eh bien, devant la parole de Dieu, devant l'océan de besoins, devant les directives qui sont multiples dans notre esprit, il faut bien que le Saint-Esprit cible les choses pour amener. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je... Tu vas ouvrir ta bouche ce matin, je mettrai ma parole dans ta bouche. Fais du bien à tes enfants, à mes enfants, à mon peuple. Ce que je vous dis là, c'est ce que le maître m'a dit ce matin à ses pieds. Alors, je puis conclure et dire, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as commandé. Bénis mes frères. Bénis mes sœurs. Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, parce que je n'ai fait qu'ébaucher la liste qui découle du travail du Saint-Esprit. Dans l'Écriture, hein, je n'ai pas allé chercher dans ma tête, dans l'Écriture. Mais, si Dieu permet que nous puissions revenir dessus, c'est lui qui dirige, c'est pas moi. Parce qu'il y a tellement de choses à voir avec le Seigneur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne nous donne jamais, eh bien, à nous disperser. Lorsqu'il nous enseigne, il prend un sujet, il le cible, et il amène le sujet à un développement. Pour que chacun comprenne ce que le maître a voulu dire. As-tu compris ce matin ce que le maître a voulu dire? Mais moi, j'ai fait de mon mieux, que Dieu soit glorifié, prions le Seigneur.